Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Le pire est-il devant nous? On posait la question ce matin sur BFM Business. J'étais face à Jean-Marc Daniel. Je vais revenir sur ce qu'on s'est dit à ce moment-là, mais il était 7h10. Et là, il n'est plus 7h10. Et nous avons deux, trois déclarations qui nous viennent de Russie qui peuvent éventuellement changer un peu la donne. On va en parler parce que bon, l'inflation, la hausse des taux, le risque de récession, tout ça est connu. En revanche, les prises d'opposition de Vladimir Poutine actualisées, c'est un peu particulier. Ludovic Subran est formel dans les pages des Échos aujourd'hui. Il dit qu'il est urgent de passer en économie de guerre. Il faut refaire du quantitative easing, c'est-à-dire permettre à nouveau à la Banque Centrale Européenne de monétiser les dettes, on va le dire comme ça, même si je sais que l'expression n'est pas parfaitement orthodoxe, c'est-à-dire de permettre aux États d'utiliser l'outil budgétaire sans limite. On parlera des retraites, bien sûr, le front anti-réforme est absolument colossal. Et pourtant, visiblement, le gouvernement est bien décidé à y aller. Alors, les régimes spéciaux seront épargnés, c'est la nouvelle du jour. C'est pas une surprise. Ce chiffre est signé de l'INSEE. Un Français sur deux n'arrive pas à sortir d'un bas salaire. Un bas salaire, c'est un peu au-dessus du SMIC. C'est environ deux tiers sous le salaire médian. On était à peu près à 3310 euros net par mois. Et puis, comment ressusciter EDF? C'est moi qui le dis avec ces mots, mais Erwan Tison, dans les colonnes du Point, intitule son article « Pour une banque centrale de l'électricité ». Alors, il nous expliquera. Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'ESCP, vous êtes également l'auteur de « Vivant le libéralisme, dette publique, chômage, croissance, pouvoir d'achat, l'actualité économique décryptée », publié chez Talendier, toute une série de chroniques publiées dans les Échos depuis déjà quelques années. Et puis « L'histoire de l'économie mondiale, des chasseurs-cueilleurs aux cyber-travailleurs, l'économie expliquée à tous », toujours chez Talendier. Aussi membre du comité éditorial de « Pour l'écho », avec à la une du numéro de septembre, Jean Tirole, prix Nobel d'économie, un entretien exclusif où il explique comment lutter contre les fake news économiques et Dieu sait si c'est vrai qu'elles prolifèrent. François Eckhall, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de FIPECO.fr, également professeur d'économie à Paris 1. Alors j'ai mis un sujet pensant à vous sur la fiscalité locale. Parce qu'on dit toujours les impôts, on pense impôt sur le revenu, mais enfin quand on sort un euro d'une poche, que ça aille à la collectivité locale ou que ça aille à l'État, pour celui qui sort son euro, ça reste un prélèvement obligatoire. Et Erwan Tison, bonjour. Voilà. Directeur des études de l'Institut Sapiens. Vous avez coécrit un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome chez MA Éditions, et donc signé un article dans Le Point que j'ai pas lu, parce que je l'ai appris ce matin, concernant EDF, donc vous nous direz ce que vous voulez dire. Il était 7h10, car si vous ne le savez pas, tous les jours à 7h10, nous avons un débat avec Jean-Marc Daniel. Et là, la question du jour était, est-ce que le pire est devant nous, le pire pour 2023? Chacun d'entre nous avons pris une position. Moi, j'étais quand même plutôt bad cop par rapport aux éléments dont je dispose pour 2023. Et Jean-Marc disait, il était good cop, mais quand même. Il y a toujours ces fameux si que nous ne maîtrisons pas. Guerre en Ukraine, situation en Chine. Et donc, on pouvait avoir une année 2023, finalement, connaissant des extrêmes. Si tout se passait beaucoup, beaucoup mieux sur le front géopolitique, on pouvait s'envoler, être bien au-delà des 1% prévus par Bercy. Si tout se durcissait et se compliquait, on pourrait être beaucoup, beaucoup plus bas. Et ce matin, Jean-Marc, voilà ce que dit Vladimir Poutine. La Russie est prête à utiliser tous les moyens de défense, y compris nucléaire, pour se protéger. Ce n'est pas du bluff, déclare Vladimir Poutine, courte intervention d'une dizaine de minutes. Et il a accusé l'Occident de vouloir détruire la Russie. Est-ce que là, on n'est pas, bon, on bascule pas dans du mauvais côté de l'extrême de notre discussion de tout à l'heure?
Ah oui, je pense qu'il y a une menace, encore que il fallait s'attendre à ça. Hein, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ce que Vladimir Poutine dise « Écoutez, je me suis trompé.
Non,
il y a eu un malentendu, rassurez-vous, je me retire de la Crimée. Tout ça, c'était une mauvaise plaisanterie. » Bon, je pense qu'effectivement, dans la situation dans laquelle nous sommes, je ferai juste trois remarques. La première remarque, c'est que je pense qu'effectivement, par rapport au schéma de prévision habituel dans lequel vous avez la croissance potentielle, puis le cycle et tout ça,
ah oui,
on n'est plus dans ces circonstances-là. C'est-à-dire aussi bien la récession de 2020 que celle qui menace, si effectivement la situation ne s'améliore pas en termes de guerre en Ukraine, à ce moment-là, elles sont provoquées par des éléments exogènes. Et donc les réponses traditionnelles de la politique économique ne sont pas les réponses qui sont les plus adaptées.
Ça m'amènera à vous demander votre avis sur les réponses de la politique monétaire. Allez-y, continuez.
Sur la politique monétaire, je pense aussi qu'on sort d'une période où on a beaucoup transformé la Banque Centrale en une espèce de gourou capable de résoudre tous les problèmes.
En trésor, hein, on l'a transformé notamment.
Oui, absolument. Et donc, on avait, il y a eu la période des années 50, 60, où c'était c'était la politique budgétaire, c'était Alvin Hansen qui a inspiré tout ça, c'était véritablement full employment and economic policy. Full employment and economic policy. La politique budgétaire nous donnait à la fois l'équilibre en termes des prix, la stabilité des prix et le plein emploi. Et puis après, il y a eu la grande modération, les années 90, c'était Greenspan. Et là, on rentrait d'ailleurs dans la phase un peu religieuse. Et si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Donc, laissez faire, je suis là, rassurez-vous, dormez bonnes gens et tout ça. Je pense que maintenant, on est dans la phase où on voit bien, c'était un peu Villeroy de Gallo au moment de la pandémie. Je ne suis pas médecin. Ouais. Et donc là, je pense que Madame Lagarde, comme Monsieur Powell, serait en droit de dire, je ne suis pas général.
Oui, mais je pense que...
Je ne suis pas ergénéticien.
J'ose pas imaginer les réactions du monde économique, si tout d'un coup, Christine Lagarde et Jerome Powell, dans une déclaration commune, disent « nous ne pouvons plus rien faire ».
Voilà, alors là, écoutez, voilà. Et donc,
c'est toute chose à bris. Hein,
oui, bon. Absolument. C'est un des grands enjeux, c'est est-ce qu'ils peuvent faire accepter l'idée qu'il y a des choses qui leur échappent. Et la troisième remarque que je ferai, c'est sur les déclarations de Poutine, moi ce qui me frappe, c'est, alors c'est pas vraiment économique, mais dans les années 60-70, il y avait des soviétologues, des kremlinologues, il y avait tout un tas de gens qui étaient capables de vous dire, vous savez, en réalité, c'est pas grave ce qu'a dit Brezhnev, parce que le véritable personnage important, c'est Machin, qui est général, qui commande le district à tel endroit, et c'est lui qui est en train de... Et il y avait des gens qui vous disaient, vous savez, Tchernienko, il va pas tenir longtemps, parce qu'il y a derrière un petit jeune qui s'appelle Gorbatchev, qui va monter en puissance. Bon. Là, maintenant, ce qui me frappe, c'est que personne ne comprend ce qui se passe à Moscou. Il n'y a personne qui est capable de dire, écoutez, le pouvoir russe, ça fonctionne comme ça. Et donc ça, c'est particulièrement inquiétant. C'est-à-dire que les gens qu'on ne comprend pas sont des gens qui sont forcément quelque part incompréhensibles. Et donc, c'est dangereux.
Et d'ailleurs, ceux qui suivent de près et qui connaissent bien la situation considèrent que parmi les trois individus qui sont nécessaires pour engager des armes nucléaires, il y en a deux qui sont considérablement affaiblis. Sous-entendu, il n'y en a que vraiment un qui est en position. J'avais une discussion, Erwan Tison, avec Eric hier. On était, Eric, vous savez, conjoncturiste, on garde la macro. Et il admettait une forme de désarroi des économistes. C'est un peu, pour poursuivre ce qu'on disait avec Jean-Marc, c'est vrai que le zéro Covid chinois, personne ne sait ce que ça devient. La guerre en Ukraine, les propos du jour, même s'ils sont peut-être plus destinés à la population russe qu'à la population mondiale, on a le droit de dire que le pire est-il devant nous, on ne sait pas.
Pire est jamais certain, c'est pour ça justement qu'il faut s'y attendre au pire. L'addition des derniers signes noirs, ce qu'on appelle signes noirs, tous les événements exogènes qu'on ne peut justement maîtriser, montre justement la limite de la prévision économique. Je pense que le rôle de l'économiste ou du conjoncturiste ou du prévisionniste dans ces cas-là, c'est d'ouvrir tous les éventails des possibilités qui s'ouvrent devant nous.
On ne peut presque plus les ouvrir, ces éventails.
Vous pouvez avoir différents scénarios. Alors le problème, c'est justement certains scénarios extrêmes peuvent paraître complètement farfelus, mais ils sont... C'est pour ça aussi la nécessité de ne pas naviguer à vue en prévision, en anticipant les différents signes faibles qu'on peut avoir, là aussi peut-être d'un point de vue endogène. Si on ne peut pas maîtriser ce qui est exogène, on peut peut-être maîtriser ce qui est endogène. Il y a un indicateur moi, qui m'inquiète particulièrement pour cette année 2023, c'est celui des taux de défaillance des entreprises. Le problème, c'est que les études de la Banque de France montrent qu'il est anormalement bas.
Toujours aujourd'hui.
Alors vous avez beaucoup d'élus, beaucoup de politiques qui vous disent que c'est grâce à eux, parce que c'est formidable de voir que les entreprises ne meurent pas. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui un surstock de 45 000 entreprises qui, normalement, auraient dû mourir parce que il y a un trend quand même naturel de 50 000 disparitions par an. On n'a pas eu ces disparitions-là. Ça concerne environ 300 000 salariés. La plupart des entreprises-là, quand on regarde un petit peu dans le micro-détail, on se rend compte qu'elles étaient déjà très affaiblies avant le quoi qu'il en coûte. Elles ont été anesthésiées pendant le quoi qu'il en coûte. Et malheureusement, la perfusion va être débranchée à partir de la fin de l'année quand on va rembourser les premiers PGE. Et un indicateur, en tout cas, qu'on peut maîtriser plus que n'importe quel soubresaut d'un dirigeant russe, c'est qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er janvier quand des entreprises qui ne font plus de gains de productivité, qui ne font plus de chiffre d'affaires, vont devoir rembourser des PGE qui des fois...
Donc le mur des faillites, il n'est pas forcément à écarter.
Ce qui me fait peur, c'est qu'on, si jamais on en discutait avec certains spécialistes, si jamais on se retrouve avec des suppressions, avec un stock de suppression d'emplois théorique de 2 ans et qui se passe en 3 mois, dans ces cas-là, qu'est-ce qui risque de se passer? On a mécaniquement une hausse du taux de chômage à 8,8%, et surtout on a un effet psychologique qui, parce que l'information économique se traite aujourd'hui en continu et de manière un peu légère, vous avez à avoir tout de suite le spectre de la récession qui sera affiché partout et le fait qu'on est en train de vivre une crise telle qu'on l'a pas connue depuis plusieurs années. Donc ça fait un peu plus peur parce qu'on un peu plus le prévoir et en agir dessus qu'effectivement un hiver nucléaire qui se déciderait à l'est de nos frontières.
Stanislas m'écrit, comme d'habitude, je vais écouter l'émission de Nicolas Dose pour prendre note des arguments qui justifient le passage en force sur les retraites. On en reparlera tout à l'heure des retraites, parce que, Erwan, vous avez lu le rapport du COR et vous en avez tiré des conclusions qui m'intéressent. Bon, pour conclure sur ce sujet, François Eckhall, vous êtes dans le brouillard également ?
Oh, tout le monde est dans le brouillard. Ça, je pense en effet dans la.
Moi, je me mets après à la place des gens à Bercy qui doivent boucler un budget chiffré pour le mois de
leur place.
Voilà. Parce que vous connaissez bien ce monde-là. Vous avez fréquenté ces arcanes.
Je l'ai fait dans le passé, dans des circonstances parfois difficiles aussi. Mais alors là, en effet, on atteint quand même, on bat des records en matière de complexité et d'incertitude. Hein, c'est sûr.
Donc réussir à boucler un budget, à donner une prévision de croissance, une prévision de dette, une prévision de déficit, une perspective de taux à 10 ans.
C'est extrêmement difficile. Donc il faut bien faire, hein, parce qu'on est obligé.
On est obligé.
Le problème du budget, c'est qu'on ne peut pas le caler sur plusieurs scénarios. On est obligé de prendre un scénario central. Il y en a d'autres qui peuvent avoir présenté. La Banque de France, par exemple, elle a présenté plusieurs scénarios de croissance pour l'année prochaine. Mais elle le peut, parce qu'on peut multiplier les scénarios. Mais quand vous faites un budget, il n'y a qu'un chiffre de recettes. Donc il y a un scénario macroéconomique. C'est très difficile.
C'est l'enfer quand même, Jean-Marc. Admettons que la place de Bruno Le Maire actuellement et de Gabriel Attal, c'est juste l'enfer.
Ah oui, oui.
Parce qu'il a complètement raison.
En termes de prévision, mais...
On est obligé de chiffrer.
Oui, oui. Donc, ils sont obligés de présenter ça. Ils vont présenter ça devant le Parlement. Et puis après, souvenez-vous, hein, pendant la pandémie...
On fait du rectificatif.
On faisait des lois de finances rectificatives. Pratiquement tous les mois. L'INSEE sortait une note de conjoncture pratiquement tous les mois. Donc, il y avait une sorte d'adaptation au terrain dans l'immédiateté. Ce que je trouve, d'ailleurs, dans la situation dans laquelle on est... On vient d'en parler. On a des scénarios, c'est-à-dire que il y a encore 3-4 ans, on vous disait bon, le taux de croissance l'année prochaine ce sera tant. Mm. Et puis il y a des gens en ce moment qui disent écoutez, j'avais annoncé que l'inflation en zone euro serait entre 8 et 10% cette année. Voyez, j'avais raison. Mm. Ils avaient tort parce que vu les informations qu'ils avaient au mois de septembre,
quand ils le disaient, ils n'avaient pas les éléments.
Ils n'avaient pas Poutine.
J'ai pas entendu beaucoup prévoir du 8-10% avant la guerre en Ukraine. Hein. C'était plus sur temporaire, pas temporaire, mais chiffré à 8-10%.
Je ne citerai pas des noms, car je...
Vous en avez en tête, vous ?
J'ai suffisamment d'ennemis pour ne pas en rajouter à la liste. Donc, je crois que c'est important. Bon. Maintenant, c'est plus de s'attarder sur les chiffres, mais sur les scénarios. Et donc, pour revenir au scénario de la Banque de France, moi, je pense, c'est ce que nous disions à 7h10, je pense que ces scénarios sont trop timorés. C'est-à-dire...
Ah ben, vous étiez sur des... Alors, dans une démarche un peu éditoriale, vous disiez, imaginons qu'on puisse faire du plus 4, voire du moins 4.
Voilà. Ou bien, on rentre dans une période qui est vraiment une guerre, qui te rappelle le confinement, et donc le confinement c'est moins 8%, donc ce sera ou bien on rentre effectivement dans une sorte de sortie heureuse de la situation, une sorte de retour à la normale entre guillemets, et à partir de ce moment là on peut aller jusqu'à, non pas là aussi, je rappelle, on a fait 7%, 6,9% en 2021, on peut retrouver non pas les 6,9% mais j'avais dit 4%.
Ah mais je suis d'accord que...
Mais, sachant encore une fois que les moins 4 et les plus 4, je ne les prends pas en disant c'est un scénario. C'est
oui, j'ai bien compris.
La présentation chiffrée d'un scénario. Mais l'idée, c'est ou bien ça cogne, ou bien on s'en sort.
Ah ben c'est bon, dans notre discussion...
Et c'est Poutine qui décide.
Dans notre discussion, j'avais les deux si.
Oui.
Si la Chine repart et si l'Ukraine s'arrête, évidemment, alors on fait totalement exploser les scénarios du pays. Oui.
Juste sur la Chine, je pense effectivement que vous avez raison d'assister là-dessus. On voit pas très bien ce qui se passe en Chine. Il va y avoir
le congrès.
Il va y avoir le congrès du Parti communiste. On voit bien qu'il y a une espèce d'obstination du pouvoir sur une stratégie sanitaire dont beaucoup de gens disent qu'elle est suicidaire sur le plan économique. Et donc il y a des règlements de compte. Là aussi, autrefois, il y avait des gens qui disaient oui, mais vous savez, derrière Mao, il y a machin et tout ça. Là, on voit Xi Jinping, mais puis de temps en temps, on apprend que Jack Ma n'est plus en odeur de sainteté. En fait, je trouve que là aussi, on passe un peu à côté de l'information et à côté de ce qui se passe sur la deuxième économie du monde. C'est pas non plus totalement négligeable.
Je vous demanderai ce que vous pensez de l'hypothèse d'une hausse, parce qu'il y a ce que l'on ne maîtrise pas, vous disiez effectivement, Erwan Tizon, puis il y a ce qu'on maîtrise. Un choix de politique monétaire, c'est un choix que l'on maîtrise. La Fed peut-elle aller jusqu'à 100 points de base ? Est-ce une erreur historique comme l'affirme Joseph Stiglitz ? Je sais que c'est plutôt l'avis de Jean-Marc Daniel aujourd'hui. J'aimerais avoir votre avis, je me tourne vers l'un de vous deux, qui avait un déficit de temps de parole, sur ce que dit Ludovic Subran dans les colonnes des Échos. Il insiste sur le fait qu'il est urgent de passer en économie de guerre, et il va droit au but, il faut refaire du quantitative easing. Est-ce qu'il a raison ? Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Mon intime conviction, c'est que face aux écarts de taux qui commencent à s'installer, notamment entre l'Allemagne et l'Italie, il va y avoir du quantitative easing. Croyez pas, François Eckhall.
Il va peut-être pas y avoir de quantitative easing. En revanche, la BCE, hein, puisqu'il s'agit d'elle, va certainement avoir beaucoup de mal à faire à revenir en arrière par rapport à ce qu'elle a déjà fait. C'est-à-dire, elle a un stock de titres publics. Je pense pas qu'elle l'augmente, qu'elle
fasse du quantitative easing. C'est ça la question. Est-ce qu'elle l'augmenterait ?
Je pense pas. En revanche, elle va le maintenir. Ouais. Elle va continuer à reprêter lorsque les obligations des États sont remboursées. Elle va pas le réduire, alors qu'on pourrait se dire que elle pourrait revenir en arrière quand même. Je pense plutôt au statu quo. Voilà. Ouais. Je pense que le plus probable c'est qu'elle ne fasse finalement rien, qu'elle reste là où on est, alors que logiquement, ce qui devrait accompagner la hausse, enfin, si on pense qu'elle a raison, c'est-à-dire d'avoir une politique monétaire plus restrictive, elle devrait accompagner la hausse des taux d'intérêt par une réduction, quand même, de la taille de son bilan en même temps. Mais ça, je pense en effet qu'elle le fera pas. C'est beaucoup plus important pour les pays du Sud. Ce qui est beaucoup plus important pour les pays du Sud qui sont très endettés, c'est pas tellement la hausse des taux d'intérêt, c'est le fait qu'ils puissent avoir accès, en effet, au financement de la Banque centrale. Donc là, je pense qu'elle va être partagée entre les pays du Sud qui aimeraient bien, en effet, suivre la recommandation de Subran, et les pays du Nord qui, eux, ne veulent pas en entendre parler. Et donc, pour moi, le plus probable, c'est le statu quo.
Bon, d'ailleurs, c'est l'information qui est restée silencieuse lors de la dernière prise de parole de la BCE. Pas un mot sur l'évolution du bilan de la banque. Ouais. Pas un mot sur le fait qu'il serait dégonflé, pas un mot sur le fait qu'il serait augmenté.
Donc
c'est du statu quo tacite. Voilà. 100 points de base, une erreur historique, Jean-Marc Daniel.
Oui, je voudrais juste revenir sur l'histoire de la Banque centrale et de ce que dit Ludovic Subran. Je pense qu'effectivement, dans le quantitative easing, il y a deux composantes. Il y avait des taux très très bas et voire négatifs. Donc là, je crois que c'était excessif. Et donc, je vais revenir sur les 100 points de base. Et puis, il y avait le rachat systématique de la dette publique. Et donc, je crois qu'un des enjeux en ce moment, c'est que les taux d'intérêt en Italie sont à 4% sur le 10 ans. Sauf qu'il va y avoir des élections. Et au moment des élections... au moment des élections en Hongrie, le gouvernement hongrois avait accusé la Banque Centrale Européenne en ne défendant pas la monnaie, en n'intervenant pas sur le marché d'échange, et donc en laissant baisser le cours du forint, de saboter les élections en créant de l'inflation qui menaçait l'équipe sortante. Vous avez un peu la même chose qui se passe en ce moment aux États-Unis où un certain nombre de gens accusent Powell de préparer la victoire des républicains qui l'ont nommé à la tête de la Réserve fédérale en durcissant brutalement la politique monétaire avec des conséquences qui vont se manifester d'ici 2-3 mois, donc notamment début novembre, quand auront lieu les élections de mi-terme. Donc je crois que pour les banques centrales, il y a un vrai enjeu, c'est effectivement éviter que les États ne fassent banqueroute, et là Ludovic Subran a raison, il faut effectivement répondre aux attentes des pays du Sud, en tout cas leur dire les choses clairement, mais il faut qu'elles le fassent avec doigté sur le plan politique, parce que systématiquement on lui dit, mais là vous avez aidé tel groupe, là vous avez aidé, sa crédibilité va être menacée. Et donc je reviens aux 100 points de base de la
100
réserve.
Points de base, je rappelle, la Fed va se prononcer aujourd'hui, on se dit ce seront comme la fois dernière 75 points de base, mais il y a pas mal de voix qui se disent ouais, ben les 100 sont pas... Alors, le 1% n'est pas impossible.
J'ai toujours défendu l'idée que les taux d'intérêt négatifs c'était aberrant, qu'il fallait faire remonter les taux d'intérêt. Maintenant, il ne faut pas les faire remonter. on ne va pas atteindre les niveaux de la Russie ou de la Turquie en disant comme ça on pourra avoir un taux de choc qui va s'apprécier.
Oui, on est à 2,25 aux États-Unis, on n'est pas à des niveaux turcs.
Oui, oui. Non, j'entends bien. Mais l'important, c'est la bonne vieille règle, le taux d'intérêt égale taux de croissance, est-ce qu'on s'approche, et donc aux États-Unis, on est à des taux à 10 ans qui sont à 3,5% maintenant, et en Europe, effectivement, on commence à avoir des taux d'intérêt sur l'Italie 4%.
Nous, 2,5.
Nous, 2,5, on n'est pas loin de la taux d'intérêt égale taux de croissance. Et en outre, je pense, et là je rejoins...
Taux d'intérêt nominal égale taux de croissance nominale.
Voilà, absolument. C'est ça, absolument. Ouais. Alors, évidemment, dans la croissance nominale, c'est des hypothèses d'inflation. Il faut avoir une hypothèse d'inflation structurelle. Ne pas prendre l'inflation telle qu'elle est en ce moment. Et là, je rejoins ce que dit Stiglitz, même si ça peut paraître surprenant compte tenu des positions globales que nous prenons, lui et moi, sur les problèmes à la fois politiques et économiques. Stiglitz dit bien, cette inflation est une inflation qui n'est pas une inflation de celle des années 70, avec des excès de crédit et qu'on ne peut pas juguler par une hausse des taux d'intérêt. Donc, et alors, là, que dit Krugman en face? Il dit, mais oui, il dit, écoutez, il faut bien qu'elle fasse quelque chose, parce que la pire chose qu'elle pourrait faire, les banques centrales, c'est rien. C'est-à-dire, leur crédibilité, c'est qu'elles sont une réponse. Et donc, il faut qu'elles apportent une réponse. Ce que je crains, c'est qu'à vouloir apporter une réponse, elles apportent une mauvaise réponse.
100 points de base, c'est pas le jour pour le faire, en tout cas, voilà. C'est ce que vous me dites, et c'est peut-être le jour de ne rien faire. En tout cas, c'est ce que dit Stiglitz. Il dit, on est arrivé à un niveau d'inflation aux États-Unis où elle va se résorber par elle-même.
D'ailleurs, c'est en cours, oui.
Ah oui, c'est vrai que c'est en cours.
Et au Canada aussi, bon. On commence à le voir dans certains pays d'Europe.
On marque une pause. Dans un instant, je vous lirai le mail que j'ai reçu de Jean-Claude. Il a raison, Jean-Claude, et je vous dirai ce qu'il me dit. J'ai reçu pas mal de choses sur les retraites. Alors, on en reparle avec Erwan Tison des retraites. Vous avez eu le rapport du COR, vous en avez tiré des conclusions qu'on n'a pas forcément entendues. Donc ça m'intéresse. Et puis, on parlera de la fiscalité locale aussi. Parce que je sens que s'il n'y a pas de hausse d'impôts au niveau de la loi de finances, il peut y en avoir ailleurs. A tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui publie vivement le libéralisme, dette publique, chômage, croissance, pouvoir d'achat, l'actualité économique décryptée chez Talendier, membre du comité éditorial de Pour l'écho avec un entretien exclusif de Jean Tirole à la une du numéro du mois de septembre. François Eccal, fondateur de Fipeco.fr, professeur d'éco à Paris. Je vous invite vraiment à aller régulièrement sur Fipeco.fr pour voir notamment les notes d'actualité et puis les notes d'analyse qui sont, enfin, si vous voulez comprendre un peu dans quel pays nous vivons, comment ça fonctionne, comment faire autrement aussi, car il y a des solutions, François. Il n'y a pas que des constats. Voilà, c'est quand même une bible absolue. Il devrait peut-être prendre un abonnement à Bercy, surtout que c'est gratuit.
Il l'utilise beaucoup.
Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens, qui a coécrit Un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome chez Emma Édition. Oui, Jean-Claude m'avait envoyé un mail et je sais qu'il a raison, car il nous écoute sur son PC. Et il dit, je dois mettre les graves à zéro, parce que sinon c'est boum, 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 boum pendant toute l'émission. Chaque fois que, pour appuyer votre propos, vous avez tendance, et c'est naturel, c'est humain, à donner des petits coups sur la table, en disant, oui, mais c'est donc ça qui... Et ben voilà, à chaque fois, ça fait boum, boum chez Jean-Claude, il n'est pas le seul, c'est insupportable. Il y a d'autres chaînes d'infos où c'est à peu près le même problème. Alors je vous assure, Jean-Claude, qu'on a un bon système de prise de son très professionnel, mais il faut être prudent en l'utilisant. Voilà. Donc j'ai bien lu votre mail. D'ailleurs, si vous voulez réagir pendant l'émission, ne m'envoyez pas des mails, car je n'ouvre pas ma boîte mail pendant l'émission. J'ouvre mon compte Twitter qui porte mon nom. C'est là où éventuellement vous pouvez m'envoyer des messages que je suis susceptible de reprendre, comme celui de Jo, qui écrit pour dire simplement merci pour votre objectivité et neutralité dans le traitement de l'actualité économique. Mention spéciale pour Jean-Marc Daniel.
Bon. J'étais prêt à taper du poing pour exprimer ma satisfaction.
Je reçois énormément de messages concernant Jean-Marc, y compris des gens qui ne le supportent pas, mais qui n'arrivent pas à s'en passer tellement ils sont passionnés par ce qu'il dit. C'est assez.
C'est l'homme que vous aimez détester.
Mais j'en ai quand même qui me disent heureusement qu'il est là. Voilà. Le rapport du COR. Alors, il y a sur les retraites, il y a qui m'a posé une question là. Oui, au sujet des régimes spéciaux, vous parlez de la SNCF, me demande Torres. Parce que normalement, je crois que tout a été réformé, les nouveaux embauchés. C'est principalement les électriciens gaziers qu'on n'a pas envie de taquiner en ce moment. Vous voyez bien pourquoi. Le rapport du COR, vous avez regardé le rapport du COR, évidemment, Erwan Tison. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ce rapport du COR? Et puis après, on pourra revenir sur la méthode de l'amendement, tout ça.
Alors, 346 pages de pur plaisir que je conseille à tout le monde.
Vous avez tapé les 346.
Ouais, mais c'est relativement bien écrit. Il y a beaucoup de graphiques, il y a beaucoup de tableaux, mais c'est surtout un travail qui est sérieux. Donc, je pense qu'on doit quiconque prend la parole sur les retraites dans l'espace public se doit justement de respecter le travail qui est fait en allant au-delà de la deuxième page. Pourquoi je dis au-delà de la deuxième page? Parce que la plupart des commentaires qu'on a entendus de la part de ceux qui veulent, surtout ceux qui ne veulent pas réformer le système de retraite, c'est de dire on a fait 900 millions d'excédents l'année dernière, donc du coup, il n'y a aucun besoin de réformer, circuler, rien à voir.
Oui, c'était le grand titre. 3 milliards 2 d'ailleurs cette année d'excédents.
Tout à fait. Et quand vous regardez d'ailleurs, tout le 100% de cet excédent en fait est tiré par un seul régime, qui est le régime complémentaire des salariés du privé. Tous les autres régimes sont structurellement déficitaires. Il y a plusieurs chiffres qui m'ont interpellé. Déjà, c'est les prévisions à long terme d'ici on va pas revenir sur l'exercice de la prévision et la difficulté justement de prévoir à long terme. À long terme, nous sommes tous morts. Mais on voit quand même certaines tendances. Déjà de voir l'amplitude qu'il peut y avoir sur les dépenses publiques, on est entre 12% selon certaines hypothèses et 19% de PIB en dépenses publiques liées aux retraites. 19%, c'est grosso modo si on ne change rien et si on fait comme certains le veulent, l'indexation sur les salaires, des retraités sur les salaires. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir dans la réforme actuelle, pourquoi est-ce que la répartition est morte ? Et pourquoi, en fait, pourquoi est-ce que la répartition est morte ? C'est pas un problème de borne d'âge, quelque part. Il y a un problème de stock, notamment au voisinage de 65 ans, 63 ans. C'est effectivement quelqu'un qui travaille une année de plus, il va en fait cotiser 30 000 euros de plus que ce qu'il va pouvoir recevoir. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'assez intéressant. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pourquoi la répartition est morte ? Parce que la population active, structurellement, va être en diminution. Le pic de la population active d'ici 2070, selon le corps, va être atteint en 2040. On aura 30 millions d'actifs à ce moment-là. On va gagner 20 000 actifs par an jusqu'en 2040. De 2040 à 2050, on va perdre 50 000 actifs par an. Et de 2050 à 2070, on va perdre 35 000 actifs par an. Ce qui fait que vous ajoutez à cela une espérance de vie qui est relativement stagnante, même légère diminution, mais il y a un effet conjoncturel là-dessus, une natalité qui va diminuer et des perspectives d'immigration qui là aussi vont diminuer. Ce qui fait que d'ici 2070, vous allez avoir par rapport à 2022, soit 7 millions de retraités en plus pour seulement 100 000 actifs. On pourrait dire de manière très simple, le nombre de retraités vont progresser 70 fois plus que sur la tendance. C'est un peu plus compliqué que ça, mais donc du coup, ça montre en fait que ce qu'on a, le problème réel qu'on a au niveau du financement des retraites, c'est un problème démographique. On va avoir beaucoup trop de retraités par rapport à la population active. Donc du coup, on voit
ce qui vous fait dire la répartition est morte.
La répartition est morte. En plus de cela, on voit que structurellement et mécaniquement, quels que soient les scénarios, donc on peut reprocher à certains scénarios d'être un peu trop optimiste, mais quels que soient les scénarios, on va assister à une paupérisation, une diminution du niveau de vie des retraités. Deux petits chiffres là-dessus. Le niveau de vie des retraités, donc par rapport au salaire moyen, par rapport à la population active, va diminuer de 25 points dans les prochaines années. Aujourd'hui, un retraité gagne à un niveau de vie 105% supérieur, donc 5% supérieur à celui justement d'un actif. On va atteindre 72 à 75% dans les années qui viennent. Le taux de remplacement, c'est-à-dire le montant de la pension que vous avez
par rapport au précédent salaire,
diminuer de plus de 25 points. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui vous disent aujourd'hui qu'il faut sauvegarder le système par répartition occultent complètement le volet démographique, et ceux qui vous disent qu'il ne faut surtout pas réformer assument de voir le niveau de vie des retraités de baisser de près de 30% dans les années qui viennent. Ce sont les mêmes qui demandent à ce qu'on réindexe sur l'inflation ou qu'on fasse un geste pour les retraités qui ne pourraient pas se chauffer cet hiver. Dernier point que nous appelle le corps, c'est la performance des quelques systèmes par capitalisation qu'on peut avoir dans notre système de par retraite.
Et il y en a du côté du secteur public.
Alors, il y en a deux en France, un du côté du secteur public qui est la RAFP, donc le régime additionnel de la fonction publique, qui a quand même obtenu une performance en 2020 de 8%. Donc, il a réussi à faire une performance financière et boursière de 8% dans un environnement où, je rappelle, 2020, ça a été la pire crise qu'on ait connue en après-guerre. Donc, on voit que la capitalisation, alors, on pourra me dire qu'effectivement, on n'est que à 45 milliards de dotation, donc on n'est pas non plus un fonds exceptionnel, mais rien que justement dans une année qui est extrêmement négative d'un point de vue économique, la capitalisation arrive à faire des petits. L'autre régime, c'est celui des pharmaciens. Les pharmaciens, leur régime est surdoté, surfinancé à hauteur de 140%. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en fait, grâce au levier capitalisation, ils ont réussi à diminuer l'âge de départ en retraite. Ils sont passés en moyenne de 63 et quelques années à 60,2 années, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, grâce à la capitalisation, non seulement ils surfinancent leur caisse de retraite, mais en plus, ils arrivent à partir beaucoup plus tôt. Et donc du coup, il y a un autre levier capitalisation dans le système de, enfin qui peut ressembler à ça, qui est justement le fonds de réserve des retraites qui avait été créé par Jospin en 2001, qui justement prévoyait qu'il y a un gros fonds de 200 milliards qui puisse financer quelque part les pertes du système à terme. Aujourd'hui, il y a 20 milliards d'euros dessus, mais il a fait une performance en 2020 de plus de 9%. Donc en fait, on voit quoi ? On voit que la répartition est morte. De toute façon, c'est démographique, ça ne sert à rien de la sauvegarder dans son entièreté, qu'on assume aujourd'hui la paupérisation à venir des retraités et que le peu de capitalisation qu'on a en France, parce qu'on a quand même des banquiers et des financiers de génie dans notre pays, arrive à surperformer même quand on a connu la pire crise depuis 1945. Donc si jamais on veut réformer les retraites, la borne d'âge ne servira strictement à rien, si ce n'est en fait à financer des dépenses publiques, donc du coup en fait à être une sorte d'impôt déguisé. Si on veut s'attaquer aux retraites, il nous faut une réforme structurelle, notamment sur le financement, et pour ça, il faut la capitalisation.
Vos réactions, François Eckhall, Jean-Marc Daniel, à la démonstration des rentes Tison. Allez-y, François.
Le, Il y a une chose qui est certaine, c'est que le problème auquel nous sommes confrontés est d'origine démographique. Il va y avoir la croissance des personnes âgées de plus de 60 ou 65 ans va être beaucoup plus rapide dans les 50 ans qui viennent que celle des personnes, disons, en âge de travailler, c'est-à-dire grosso modo entre 20 et 60 ou 20 et 65. Voilà. Donc on a un problème démographique. Dans le cadre des régimes par répartition actuels, la solution qui a été trouvée, qui permet en fait finalement d'à peu près d'équilibrer les régimes de retraite actuels à l'horizon, à un horizon lointain, c'est une baisse du taux de remplacement des revenus d'activité par les pensions. Une baisse du taux de remplacement qui en fait est totalement mécanique, qui résulte de la législation actuelle et qui vient essentiellement du fait que les retraites sont indexées sur les prix, sur l'inflation, alors que les revenus d'activité en principe augmentent plus que l'inflation. Il y a des gains de pouvoir d'achat en principe normalement, en tout cas on peut penser qu'il va y en avoir sur le long terme. Donc ce mode d'indexation fait baisser le taux de remplacement. C'est pas une solution très satisfaisante. Donc, il y en a une autre solution, ce qui est celle dont on parle aujourd'hui, qui est de se dire, ce ratio démographique, il est tel qu'il est, mais on peut faire en sorte que les gens travaillent plus tard. Donc, le sujet à ce moment-là, c'est de reculer l'âge de départ à la retraite.
La borne d'âge n'est quand même pas un outil complètement inutile.
La borne d'âge, elle est fixée par la réglementation, que ce soit l'âge minimal ou la durée minimale de cotisation pour avoir une retraite au taux plein. On peut jouer sur ces mécanismes et donc on peut rééquilibrer le système et, je dirais, sauver les régimes par répartition.
Ah,
est-ce que la capitalisation, c'est mieux ? Non, moi je n'y crois pas.
Ah.
Je n'y crois pas parce que fondamentalement, on n'échappera pas. La capitalisation ne permet pas d'échapper à ce problème démographique. De toute façon, que vous soyez en répartition ou en capitalisation, les revenus des retraités sont financés par un prélèvement sur les revenus d'activité. C'est, dans un cas, c'est des cotisations, dans l'autre cas, c'est des revenus du capital. Mais c'est pareil, c'est un revenu qui est prélevé sur la valeur ajoutée créée à un moment donné par les actifs. Si vous avez beaucoup moins d'actifs, vous pourrez prélever beaucoup moins. Donc vous n'échapperez pas, même dans un régime par capitalisation, vous n'échapperez pas au problème démographique. Donc je pense que je veux bien qu'il y ait un peu de capitalisation, j'ai toujours dit. D'accord, pour un peu de capitalisation, ça permet de mieux répartir les risques, ça a quelques avantages, mais qu'il ne faut pas rêver. La capitalisation n'est pas la solution miracle à ce problème.
Avec vos deux regards et les différences qu'il peut y avoir entre les deux, vous nous décrivez quand même une impasse. Franchement, vous nous décrivez une impasse.
Non. Pourquoi une impasse?
Ou alors il faut vraiment travailler beaucoup plus.
Pas forcément beaucoup plus.
Non, bon, Jean-Marc.
Non, pas forcément.
En essayant d'aller droit au but.
Je vais faire l'arbitre entre les deux. Je pense que la capitalisation est la solution à condition de l'utiliser pour aller chercher de la jeunesse. Là où François a raison. François a raison, c'est que si on utilise la capitalisation pour rester sur le territoire national, on aura le problème démographique. En revanche, si le fonds.
On peut placer à l'étranger.
Voilà.
Bien sûr.
Si le fonds de pension place dans les pays jeunes, à ce moment-là, la jeunesse des pays jeunes va payer notre retraite. C'est la stratégie du Japon. Il n'y a pas d'immigration, c'est clairement affiché, c'est assumé.
C'est un choix politique.
Mais vous avez un pays qui a dégagé énormément d'excédents extérieurs, qui a placé son épargne, et vous avez maintenant un pays qui vit, grosso modo, du travail de ses voisins. Donc, des Chinois, entre autres, mais des Indonésiens. Bon.
Donc, c'est un élément de réponse solide, ce que vous décrivez.
Exactement. Le véritable enjeu, c'est de persuader, de persuader les ressortissants de ces pays étrangers de continuer à travailler pour
nous.
Je cite assez souvent une déclaration de Mme Merkel qui avait dit un jour, compte tenu de notre démographie, parce que l'Allemagne connaît les mêmes problèmes démographiques que nous, ce sont les Turcs qui paieront notre retraite. La seule question est de savoir s'ils la paieront en travaillant dans des usines sur notre territoire national ou en travaillant dans des usines en Turquie dont nous serons les propriétaires. Et Erdogan avait dit, nous nous débrouillerons pour ne pas payer. Donc le véritable enjeu, c'est effectivement la capitalisation. Je pense que c'est la solution, mais il faut la gérer en ayant l'objectif d'aller chercher de la jeunesse, en sachant qu'il y a un problème de légitimité à faire payer cette jeunesse pour notre vieillesse.
Bon, je pense que si on utilise ce mot, dans ce qui ressemble à un futur amendement à la loi de finances de la sécurité sociale, ça va mal se passer.
Non, mais surtout, on ne peut pas le faire. Ce qu'il faut, c'est une vraie réforme anti-globale liée à la... Mais je ne suis pas sûr, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même une inégalité flagrante qui s'opère d'un point de vue, je ne vais pas faire mon marxiste de base, mais vous avez une inégalité flagrante qui s'opère sur la liberté ultime qui est celle de décider de ne travailler ou de ne pas travailler selon les niveaux de revenus. Vous avez la possibilité quand vous, de continuer à pouvoir travailler au-delà de 65, 70 ans quand vous avez les moyens de le faire et quand vous avez la possibilité de créer votre entreprise, etc. Quand vous êtes touché par la pénibilité du travail, quand vous avez aucune possibilité de faire de l'épargne, vous ne pouvez pas justement vous dire je quitte tout et puis je vis de manière très frugale avec c'est le mouvement des FIR aux États-Unis là qu'on voit, c'est des gens qui partent à la retraite à 39 ans parce qu'ils ont eu un énorme boom boursier, qu'ils ont de quoi vivre jusqu'à la fin de leur vie. Là, avec la capitalisation, on peut quand même, la capitalisation, c'est quand même la possibilité d'offrir à tout le monde, à ceux qui ont un taux d'épargne marginal négatif ou nul, la possibilité justement de pouvoir créer une propre épargne et donc du coup de pouvoir avoir les mêmes avantages que les classes, on va dire, supérieures. Donc je ne comprends même pas pourquoi est-ce que le normalement ça devrait être la gauche qui devrait pousser absolument.
Oui,
bah,
ça a été à une époque.
Bah, 1909, Jaurès à l'une de l'humanité qui disait.
Le patronat était contre en disant mais la capitalisation, c'est les ouvriers qui vont être propriétaires de nos
bien
usines.
Sûr,
c'est insupportable. Nous ne voulons pas ça.
C'est une réforme profondément marxiste.
On allait vers. Bon, il faudra inventer un autre mot que fonds de pension parce que c'est un gros mot aujourd'hui. Mais on allait vers des fonds de pension à la fin, Jospin. Là.
Oui, et puis, il avait commencé, oui, le rapport Chaffin a fait indiqué qu'il fallait faire des fonds de pension.
Allez retrouver cet article de Patrick Artus qui décrit pourquoi la capitalisation dans les retraites est une réforme de gauche. Et objectivement, ça peut s'argumenter. C'est pas la peine de venir pousser des hurlements systématiquement, considérant que les dividendes sont beaucoup trop généreux, et renoncer éternellement à vouloir en faire profiter tout le monde. Est-ce que c'est complètement débile ce que je dis, Jean-Marc ?
Non, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que
parce qu'on peut considérer que c'est de la démagogie de journaliste.
Non. Je pense que c'est une façon de faire passer cette réforme, sachant que, comme le disait Tony Blair, il y a un moment où on doit se poser la question, non pas de savoir si c'est de gauche ou si c'est de droite,
et qu'est-ce qui fonctionne,
savoir si ça fonctionne ou si ça fonctionne.
Je suis bien d'accord. Je voulais vous poser la question. François Eckhall, parce que je sais que vous êtes beaucoup penché sur l'ensemble des finances publiques, y compris les finances locales. Alors, le grand message national de Bruno Le Maire, c'est on ne montera pas les impôts. Bon, certes, visiblement, on va étaler la suppression de la CVAE sur 2 années, et ça ne se fera pas en 1 an. On ne parle plus des droits de succession. On verra plus tard. Mais en fait, c'est du côté local que Bruno Le Maire n'a aucun levier. Et j'ai une espèce d'intuition qu'on va se faire matraquer localement par la fiscalité. Est-ce que je me trompe ?
Alors, oui et non. Oui et non. C'est vrai que les collectivités locales, historiquement, ont eu tendance à augmenter les taux d'imposition pour financer des dépenses qui allaient beaucoup plus vite que les dépenses de l'État en particulier. La taxe d'habitation a été supprimée. Or, c'était quand même le principal levier sur lequel elles avaient, les collectivités locales, un pouvoir de hausse des taux. Alors, il reste la taxe foncière.
Ouais, dans certaines villes, voilà. C'est plus de 10% de hausse.
Reste la taxe foncière. Donc, en effet, on peut se dire la taxe foncière, les taux de taxe foncière vont augmenter parce que les collectivités locales vont avoir besoin de financer des dépenses qui continuent à augmenter. Et donc, il y a un risque de hausse de la taxe foncière et des taxes associées, une taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, etc.
La TEOM.
Voilà. Alors, après, la taxe d'habitation a été supprimée, mais elle a été remplacée. Elle a été remplacée par une fraction de TVA, donc par un impôt d'État qui augmente comme la TVA, donc qui augmente assez vite. Hein.
Mais il n'y a pas eu de hausse de TVA.
Il n'y a pas de hausse de TVA, mais si vous n'augmentez pas les taux de TVA, ils sont ce qu'ils sont, mais la TVA, elle augmente comme la consommation, elle augmente comme les prix.
Oui.
Là, elle est très dynamique.
Ah, elle est très dynamique. Bah, on a vu les recettes, 27 milliards de recettes exceptionnelles en 2022.
Elle augmente beaucoup. Et d'ailleurs, la situation.
Ce n'est pas une hausse d'impôt, ça, François Eckhall.
Ce n'est pas des hausses d'impôt. Et la situation des collectivités locales, elle est bonne, hein, en ce moment. Les collectivités locales sont sorties de la crise avec une bonne situation financière. Elles ont quelques dettes, mais elles ont aussi, par exemple, des liquidités considérables. Il y a, l'année dernière, à fin 2021, il y avait 80 milliards d'euros de trésorerie dans les caisses des collectivités locales. Hein. C'est énorme.
Donc, c'est une situation à peu près un peu exceptionnelle par rapport à...
C'est assez exceptionnel. Oui. Elles ont fait ça parce que finalement, c'est finalement de la bonne gestion. Elles ont emprunté en 2020-2021, justement en anticipant, en se disant que c'était le moment d'emprunter et en anticipant des hausses de taux. Donc elles ont emprunté ces 2 dernières années beaucoup plus qu'elles en avaient besoin en réalité. Donc, mais ça va leur permettre de moins emprunter une fois que maintenant que les taux d'intérêt sont remontés. Donc elles sont plutôt dans une bonne situation financière. Donc oui, je pense qu'il va y avoir des hausses de taxes foncières locales parce que certaines villes auront besoin, n'arrivent pas à maîtriser leurs dépenses et auront besoin d'augmenter la taxe foncière. Mais je ne crois pas trop à une hausse généralisée quand même et très importante l'ensemble des taxes foncières.
Ceux qui vont quand même prendre cher, visiblement, c'est ceux qui continuent à payer la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Alors là,
c'est pareil. Bon, après, c'est comme la taxe foncière.
Il y a eu plein d'idées qui ont été évoquées par le passé, qui n'ont pas toutes abouti. Mais enfin, une idée fiscale n'est jamais morte. C'est de faire une taxe foncière progressive, une sorte d'impôt sur le revenu local.
Ça, c'est très, très compliqué. En revanche, ce qui est envisageable, ce qui a été évoqué, d'ailleurs, ça avait été voté il y a 20 à 30 ans, c'est un impôt sur le revenu local, une espèce de CSG, une CSG locale. Ça, techniquement, c'est possible.
Ouais. J'adore le sado-fiscalisme, Jean-Marc Daniel.
Ah, c'est effarant. Bon. Et juste une chose, moi, je suis régulièrement...
L'expression est de Jean-Marc Daniel.
Oui, oui. Je suis assez régulièrement, par pure curiosité, la taxe Cabanon.
Oui, mais bon, ça c'est...
Tous les ans, au 1er janvier...
Elle existe.
Janvier.
Au-delà de 5 mètres carrés, vous êtes taxé. C'est la GEMAPI, je crois.
Oui. Et tous les ans, ça augmente, mais le taux augmente dans des proportions absolument invraisemblables.
C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui construisent leur cabanon, qui essayent de ne rien dire. Et après, on regarde les images satellites. Ah, une piscine pas déclarée. Ah, un cabanon qui fait 6 mètres carrés.
Ça, c'est du pur sado-fiscalisme.
EDF, qu'est-ce qui vous a pris, Erwan Tison, de... C'est déjà assez compliqué entre Jean-Bernard Lévy et l'État. Bon, là, vous avez vu, il y a deux sénateurs qui publiaient une lettre ouverte dans l'Opinion il y a deux jours. Clairement défendre Jean-Bernard Lévy par rapport à la responsabilité de l'État dans la gestion globale d'EDF et du dossier nucléaire. Vous prenez la plume dans le poing et là vous écrivez pour une banque centrale de l'électricité. Quel est le message? Quelle est votre idée? Je vous écoute.
Dans mes jeunes années, quand j'étais jeune étudiant à l'Université de Strasbourg, quand les banques centrales étaient encore plus ou moins normalisées, il y avait un grand débat académique pour lequel je m'étais passionné, qui est très vieux, c'est celui de la règle contre la décision. Et c'est celui qui a animé notamment les banques centrales. Vous avez donc du coup l'idée, soit une banque centrale, on lui donne une règle, ce qui est le cas par exemple de la BCE, on lui donne une indépendance totale et elle a une règle à suivre, elle se doit d'avoir ce cap, elle ne doit pas déroger de ce cap-là. Ou alors vous avez des banques centrales qui du coup, on leur donne la décision, c'est-à-dire que concrètement, elles sont plus rapides dans l'exécution, mais elles peuvent faire un petit peu ce qu'elles veulent, du coup, ce qui pose des problèmes à la fois de crédibilité et d'anticipation. La crédibilité des banques centrales au tournant des années 2000, et c'est quand même fait notamment avec la constitution et de la BCE et le traité de Maastricht, c'est fait autour justement de l'idée d'une banque, une monnaie ne peut être crédible que si la banque centrale émettrice est extrêmement rigoureuse dans la suivi de sa règle et totalement indépendante.
Oui, c'était la copie de la Bouba, quoi. En
fait. Exactement. Voilà. Quand j'ai regardé un petit peu, je me suis intéressé au débat énergétique parce que j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que je vais avoir froid cet hiver. J'ai regardé un petit peu l'historique d'EDF. Quand on regarde de ce qui s'est passé depuis Poglov, par exemple, en 1981, où on décide de fermer une centrale nucléaire pour gagner 2% d'intention de voix de la part des Verts, quand on décide de fermer Fessenheim pour gagner la reconnaissance de Martine Aubry, le fait qu'il n'y ait pas trop de députés qui soient justement dans son giron à elle, ou quand on décide de diminuer la part du nucléaire, etc., dans le mix énergétique, quand on décide de fermer Superphénix pour faire plaisir à Dominique Vanet, je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est légitime du fait qu'une population française qui dispose d'un outil industriel et technologique extrêmement performant qu'est EDF se doivent justement de ne pas cuire son gigot entre 19h et 21h parce qu'un parti politique faisant moins de 2% a imposé justement dans les accords électoraux le fait de fermer tel et tel outil qui pourrait satisfaire notre souveraineté énergétique. Et je me suis dit que non. Donc je me suis posé la question, quelle serait du coup la façon qu'on pourrait avoir, la meilleure façon qu'on pourrait avoir de garantir le fait que ça ne se reproduise pas. Et je pense qu'un mécanisme similaire à celui des banques centrales, c'est-à-dire le fait de doter EDF, qui d'ailleurs son statut va être remodelé.
On va voir le statut, il doit être analysé intégralement.
Le fait de lui donner un statut qui lui garantisse une indépendance totale avec une règle simple qui est de produire de l'électricité de manière décarbonée à bas coût, assurant notre souveraineté énergétique sur notre territoire et pourquoi pas en Europe, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse justement faire pour EDF. Ça évitera d'une part d'avoir successivement des ministres de l'économie qui prennent leur téléphone deux fois par jour pour donner des injonctions contradictoires à un opérateur privé qui a besoin de long terme et qui ne peut pas réagir plusieurs fois dans les mêmes journées. Et ça permettra aussi de rendre notre politique énergétique complètement imperméable à tous les accords d'arrière-boutique purement politiques qui se font et qui se font sur un sujet aussi sérieux que peut-être l'énergie. Donc le terme banque centrale est un petit peu provocateur.
Ouais, j'entends,
il est fait pour. Mais je pense qu'en fait, il faut vraiment que dans la nationalisation d'EDF, il faut que ça devienne un outil totalement indépendant plutôt qu'un outil totalement fait au pouvoir politique.
Je ne sais pas si vous voulez réagir à cette idée.
Juste une remarque, je pense effectivement qu'il faut que ce soit un outil totalement indépendant.
Je ne sais pas si ce statut existe, je comprends l'idée.
Mais la comparaison avec la Banque Centrale tient au fait que dans les deux cas...
C'est de la provocation, là.
Oui, non, c'est pas de la provocation. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, ce sont des monopoles à qui on confie une mission. La question qui se pose, c'est est-ce que le caractère de monopole est une obligation? Moi, je pense que dans le domaine énergétique, il faut revenir à l'esprit d'avant 1946. Tout le monde salue Marcel Paul, la nationalisation, la monopolisation et l'étatisation. La France était dotée du meilleur réseau électrique de l'Europe occidentale en 1939 avec 363 compagnies d'électricité. Donc, l'électricité, ça n'a pas vocation à être systématiquement un monopole.
Jamais, Jean-Marc.
L'indépendance, oui, par la privatisation.
Oui, mais là, il y a un grand mais, c'est qu'aujourd'hui, il y a un énorme parc de centrales nucléaires, et c'est pas avec 360 petits acteurs que vous allez pouvoir gérer cette...
Non, mais aux États-Unis et au Japon, elles sont privées. Hein.
Ouais. Mais enfin bon.
Il faut pas faire ça.
Oui, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai tapé sur le bureau.
D'ailleurs, la privatisation en matière d'électricité, pour poursuivre, il faut distinguer deux choses. Hein. Il y a la production d'électricité, et il y a le transport et la distribution d'électricité. Dans tous les pays, le transport et la distribution, c'est un monopole.
Oui.
C'est un monopole naturel et qui est régulé, d'ailleurs, contrôlé par une autorité indépendante. Donc ce schéma dans lequel on a une autorité indépendante qui contrôle, qui régule, qui fixe les prix, qui décide des investissements, on l'a, hein. On l'a pour la partie transport-distribution.
Oui, mais pour cette partie-là...
On l'a pas, et qui me pose relativement peu de problèmes, d'ailleurs. Et en revanche, on n'a pas, en effet, dans la partie production, qui est en concurrence avec, entre une entreprise publique, des entreprises privées, enfin voilà, il y a des importations.
T'as pas sur la table, ça écale. Jean-Claude va m'écrire tous les jours.
Travail de la mousse.
Non, mais je... Enfin, dans ce débat entre Jean-Bernard Lévy et l'État... Moi, je penche quand même sérieusement du côté de Jean-Bernard Lévy.
Ouais, je pense que EDF a fait des erreurs, hein. C'est comme assez important. Mais après, l'État n'a pas aidé. Hein. Voilà.
C'est sûr que
quand on inscrit une stratégie dans une perspective de déclin de l'énergie nucléaire...
Et qu'on change d'avis
tout le temps, c'est pas motivant pour aller recruter des jeunes ingénieurs et leur dire le nucléaire, c'est l'avenir, venez chez EDF et venez construire des centrales.
EDF,
je pense, a perdu la main sur certaines technologies, d'où une partie des problèmes actuels.
C'est pas EDF non plus qui décide d'avoir l'obligation de vendre plusieurs kilowattheures à perte et éventuellement de changer d'ailleurs les ratios de vente au tarif arène quand ça arrange le pouvoir public pour pouvoir subventionner
les pouvoirs publics n'ont pas aidé EDF, c'est clair.
D'ailleurs, ils ont du mal à trouver le remplaçant. Hein, qui a envie, pour 450 000 euros, d'aller mettre les mains là-dedans. Bon, il nous reste une minute, donc je n'ouvre pas le dernier sujet. Le dernier sujet, c'était... ce chiffre de l'INSEE, mais on en reparlera parce que c'est assez fascinant. Un Français sur deux n'arrive pas à sortir d'un bas salaire. Et l'INSEE a regardé en fait le niveau des salariés français en 2015 et puis a regardé 4 ans plus tard comment est-ce que les choses avaient évolué. Et on arrive effectivement à peu près à 1 sur 2 qui soit n'a pas réussi à sortir d'un bas salaire. Donc bas salaire, les 2/3 du salaire médian, enfin en dessous des 2/3 du salaire médian. Le salaire médian est à 1950 euros net. C'est-à-dire quand on est sous 1310 euros net, c'est-à-dire à peu près, presque, c'est un tout petit peu plus que le SMIC. Et quand on regarde 4 ans plus tard, il y a ceux qui sont toujours coincés. Il y a ceux qui sont plus salariés et il y a ceux qui sont au chômage et qui touchent des allocations. Ça fait effectivement un Français sur deux qui n'arrive pas à sortir d'un bas salaire. On en reparlera, bon, puis ce sont les femmes, les moins de 26 ans et les actifs du tertiaire qui sont les plus concernés. On a terminé, merci Jean-Marc Daniel. Merci Erwan Tison, on peut donc vous lire dans Le Point qui sort là. François Eckhall, Fipeco.fr, la Bible absolue pour comprendre le pays dans lequel nous vivons. Et on se retrouve demain à 9h.